Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM, ravi de vous retrouver. Il est 11h03 et aujourd'hui dans les studios nous avons le plaisir de recevoir des élèves de 6e à la 3e du collège Vallis Aeria. On les appelle les petits micros de Vallis. C'est un petit peu de la web radio hein, puisqu'ils font de la web radio au sein de cet établissement scolaire de Valréas. Donc ils ont pris le bus, ils sont venus avec nous, ils ont fait une heure de bus. Ils sont venus découvrir un petit peu comment on fonctionnait dans les studios de la radio d'RTVFM. Nous avons autour des micros pour l'instant Camille, Nathanaël, Marie-Lou et Nina. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors on va commencer un petit peu avec Camille, parce que je crois que vous avez quelques questions à me poser. Vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'univers de la radio, comment ça fonctionne. Camille, je t'écoute pour ta première question.
Y a-t-il des métiers nécessaires à l'existence d'une radio moins mis en valeur, par exemple, qui cherchent les fonds de finance à la radio ?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question, Camille. On va appeler ça de l'administratif en termes de radio. Et dans une association, c'est le conseil d'administration qui va aussi s'occuper de faire les recherches potentiellement financières, mais c'est aussi des fois le salarié qui peut, au niveau de l'administratif, aller à la rencontre de partenaires, démarcher aussi des partenaires, mais c'est aussi le rôle du président. Le président, on en a moins parlé tout à l'heure. Effectivement, le président, lui, ça va être plutôt un rôle, on va dire, politique, c'est-à-dire d'aller échanger avec, par exemple, les communautés de communes, les municipalités, avec les associations pour tisser du lien et pour aussi pouvoir passer des partenariats. Donc, effectivement, le rôle financier est important puisque c'est potentiellement ces partenariats qui vont déboucher sur du financier. Après, toute la partie scolaire, qu'on ne parlait pas, c'est la partie pédagogique. Effectivement, le travail avec les enseignants, là, par exemple, ça va être mon rôle d'échanger avec eux, de pouvoir après gérer toute la partie administrative. Donc oui, on a une grosse partie qu'on ne voit pas à l'arrière, c'est l'administratif. Ça prend beaucoup de temps, un peu comme dans les entreprises et dans le domaine du privé.
Quelle est la place de la radio à l'heure où l'audiovisuel tient d'une place très importante ? Peut-on rivaliser avec la télé ou l'audiovisuel ?
Alors, c'est complémentaire. Ce n'est pas un média concurrent. C'est-à-dire que la radio, déjà, ça a existé depuis très très longtemps, mais c'est complémentaire à la télévision. Aujourd'hui, et comme je vous disais aussi, aujourd'hui, on se retrouve que sur la télévision, souvent les groupes ont la radio. Par exemple, on prend le cas de RMC, on peut prendre le cas de France 3, etc. On va se retrouver avec Ici Vaucluse, par exemple, qui est diffusé sur France 3. Donc aujourd'hui, la télévision est complémentaire à la radio, mais c'est deux choses différentes. La radio, on n'a pas d'image. La télévision, on a de l'image. Donc c'est deux choses différentes. Après, les animateurs qui sont en radio peuvent faire de la télévision aussi et vice-versa aujourd'hui. Donc c'est un petit peu une passerelle entre les deux en 2026. Merci Camille. Alors je pense que Nathaël a maintenant aussi quelques questions à nous poser. On t'écoute.
Avez-vous pour vocation de parler que du territoire uniquement autour de Carpentras ?
Alors oui, une radio de territoire, une radio locale, locale par le terme local, mais effectivement associatif, c'est de parler de son territoire. Donc nous, on va cibler notre zone de couverture. Notre zone de couverture, tu l'as vu, elle émet jusqu'à Valréas, donc là où vous êtes, en DAB. Donc effectivement, on peut parler de Valréas. Dans les faits, effectivement, notre zone historique de naissance, c'est Carpentras. Donc principalement, on est logé par Carpentras, on va parler principalement au départ de Carpentras. Mais après, effectivement, rien nous empêche de parler tout autour. J'ai parlé d'un petit village qui s'appelle Vesque. La semaine dernière, j'ai reçu un jeune de 14 ans qui allait se produire sur un concert à Vesque. Et donc là, lui, il habite Venasque, donc pas très loin d'ici non plus. Mais il allait se produire à Vesque, qui est dans la Drôme, pas très loin non plus de Nyons, etc. Donc, tu vois, on peut parler effectivement de zones plus éloignées. Donc, rien nous empêche de parler de Saint-Rémy-de-Provence. En général, on va cibler notre zone de couverture. On va pas parler, par exemple, de Montélimar, où on n'aimait pas aujourd'hui. Peut-être dans un flash info national, mais ça, ce sera produit dans du national. Mais nous, l'important, c'est de produire du local, oui.
D'accord. Lorsque l'on programme des émissions, doit-on tenir plus compte de l'audimat, de l'avis des auditeurs ou de nos propres envies ?
Alors, c'est particulier, effectivement, et c'est une bonne question que tu nous poses, Nathaël. En radio associative, l'objectif, c'est pas l'audimat. L'objectif, c'est le travail que l'on effectue sur le territoire, avec ceux avec lesquels on travaille. Bien sûr que l'audimat, il est toujours quelque part, dans le sens où la radio, on fait ça pour que ce soit écouté par des auditeurs aujourd'hui. Mais dans les faits, l'audimat ne guide pas les radios associatives. Elles ont un travail de terrain. Elles ont le but de... En fait, on va traiter de sujets que les radios commerciales ne traitent pas. On va traiter de sujets, par exemple, comme l'environnement. Les radios commerciales ne vont pas le traiter. Le but, eux, c'est de faire un maximum d'audience pour avoir des publicités, les vendre les plus chères possibles. Donc, on n'est pas du tout dans ce format-là, nous, en associatif. On est sur un travail de terrain, travail avec des partenariats. Je n'ai pas parlé du parc naturel régional du Mont-Ventoux avec lequel on travaille. Donc, on est encore une partie sur l'environnement. Donc, nous, l'objectif est totalement différent d'une radio commerciale. Et l'audimat, pour en revenir à ce terme-là, on ne fait pas partie de Médiamétrie aujourd'hui. Médiamétrie, il faut savoir que c'est plus de 10 000 euros sur l'année pour avoir un résultat d'audience. Aujourd'hui, une radio associative, déjà, n'a pas forcément les moyens. Et l'utilité, comme je te disais, on diffuse très peu de publicité. Nous, on est limité à 20% du chiffre d'affaires. En diffusant très peu de publicité, on n'a pas d'objectif sur une publicité. même par un territoire, on sait qu'on couvre 850 000, on sait que l'objectif d'une radio, c'est d'être écouté quand même par du public, mais on n'a pas cet objectif premier. Nous, l'objectif premier, il est sur du contenu, il est sur un travail de territoire, il est sur apporter quelque chose de différent, pas pareil que les radios commerciales. Merci Nathaël, en tout cas pour ces questions pertinentes, merci aussi à Camille. Je crois que Marie-Lou a quelques questions complémentaires, on t'écoute.
Qui a été à l'origine de cette radio? Qui sont les fondateurs de l'entreprise?
Alors, effectivement, je ne suis pas rentré dans le vif du sujet. La radio a été l'association avril 2012. Ça, c'est la date de création de l'association, 12 avril 2012. Cette association, à l'origine, effectivement, elle est partie avec un président, Alain Couillard, qui est un Québécois, et on a monté ce projet à plusieurs. J'ai monté ce projet avec mon père, donc, qui a donc en 2012 aussi nous a aidés sur ce projet-là. Alain Couillard aussi, le président. Et moi-même. Donc effectivement, on a été trois à l'origine de la création de cette radio. C'est regroupé autour de ce projet, petit à petit, d'autres personnes, d'autres bénévoles qui nous ont rejoints. Au tout départ, on a démarré sur une commune qui s'appelle Saint-Didier, là où j'habite aussi. Donc on a démarré sur une... En tant que web radio, vous faites de la web radio aujourd'hui. Donc la web radio, c'est le fait de diffuser sur Internet, hein, pas que des podcasts, mais de diffuser en continu sur Internet. On a démarré pendant 9 mois en web radio pour voir s'il y avait une utilité sur le territoire. À la suite de ça, donc d'autres personnes sont venues nous rejoindre. On est arrivé en... juin 2023, ici, dans les studios où vous vous trouvez à Carpentras. Donc, on a été accueillis par la mairie de Carpentras. Nous, on a souhaité, en fait, tout simplement avoir un projet en AFM beaucoup plus large. Et donc, le projet a intéressé la municipalité de l'époque. Et donc, on a été accueillis sur Carpentras. On est toujours dans ces locaux-là aujourd'hui en 2026. Donc, tu vois, ça fait quand même quelques années. Et donc, l'équipe, petit à petit, s'est agrandie. On s'est dit qu'on a été jusqu'à une trentaine de bénévoles sur RTV-FM. Aujourd'hui, un salarié. Et donc, petit à petit, effectivement, l'équipe s'est agrandie, les projets se sont agrandis, des nouvelles émissions, des nouvelles chroniques. Mais le point de départ, effectivement, c'est 2012 en web radio pour voir l'utilité. Et 2013, donc juin 2013, on est arrivé ici. On a obtenu la première fréquence FM, octobre 2013. Première fréquence FM, alors je n'ai pas précisé tout à l'heure, fréquence FM pédagogique. Il faut savoir qu'à l'époque, ça existait, ça n'existe plus aujourd'hui, ou en tout cas, c'est très compliqué d'en avoir. C'est ce qu'on appelle des projets pédagogiques. Les fréquences FM émettaient 9 mois sur 12. 3 mois dans l'année, on était obligé d'éteindre, c'était comme ça, on était hors appel à candidature, donc ce n'était pas des fréquences définitives. On a été très longtemps en temporaire, ce qu'on appelle 9 mois sur 12 en FM, et on a obtenu la fréquence définitive en FM juillet 2025, c'est très récent, et fréquence définitive en DAB, par contre c'est plus ancien, 2021. Voilà, donc on émet officiellement en définitive toute l'année, 12 mois sur 12, avec deux fréquences, depuis donc 2021 et 2025.
D'accord, comment organisez-vous votre programmation? Qui décide des contenus? Existe-t-il une hiérarchie entre vous?
Alors, on a un avantage, c'est qu'on est plus ou moins indépendant à ce niveau-là. C'est-à-dire que souvent, tu as l'habitude, quand tu écoutes ici Vaucluse, etc., souvent c'est dirigé par Paris. C'est un gros réseau national, même énergie, etc. On va leur dire, c'est comme ça, il faut suivre cette trame-là, et ils n'ont pas trop de liberté. En associatif, l'avantage que l'on a, c'est que c'est uniquement interne. On a un seul studio. Donc, c'est le conseil d'administration qui va effectivement décider de la direction. Si on va traiter, par exemple, de plus de sujets, si on va avoir plus de missions, si on veut plus de contenus musicaux, etc. Donc, la direction est prise par un conseil d'administration. Et ensuite, moi, je dois l'appliquer en tant que salarié. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au sein de la radio. Merci en tout cas Marie-Lou aussi pour ces questions très pertinentes. Décidément, on voit que vous avez bien travaillé le sujet. Et enfin pour finir, Nina.
Bonjour. Avez-vous couvert des faits qui vous ont marqué?
Alors, il y en a tellement. Et alors, je vais te dire aussi que la radio associative par rapport aux autres radios qu'on connaît, c'est une radio de territoire et on passe d'un sujet à l'autre. Comme je t'ai dit, par rapport au métier qui est polyvalent, effectivement, on passe très vite d'un sujet à l'autre. Des faits marquants, il y en a forcément... Là, j'en ai pas forcément qui me viennent en tête aujourd'hui, parce que moi, je passe beaucoup d'une activité à une autre. Après, moi, l'effet marquant, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, dans mon métier, ça sera peut-être une question que vous poserez. Moi, dans mon métier, au départ, c'est la technique, mais je suis aussi animateur. Donc, la partie animation aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, les interventions des établissements scolaires aussi, de voir des jeunes comme vous aussi, c'est quelque chose que je retiens régulièrement. Ça fait partie, moi, d'une grosse partie de ce que je réalise quotidiennement. Je vous ai dit une cinquantaine d'interventions, le contact que j'ai aussi avec vos enseignants. Donc, c'est peut-être l'une des choses, en tout cas, que je retiens le plus. Merci en tout cas Camille, Nathaël, Marie-Lou et Nina. Et puis je pense qu'on va continuer puisque d'autres jeunes ont d'autres questions aussi pertinentes que vous. Et nous sommes maintenant avec Noé, Elijah, Renzo et Leïla. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors je crois qu'on va commencer avec Noé qui a quelques questions à nous poser. On t'écoute Noé.
Avez-vous le statut d'entreprise ou d'association?
Association, entreprise, c'est pas la même chose. On n'est pas une SARL, ni une SAS, ni une URL, etc. Donc, association, effectivement, loi 1901.
Est-ce que l'IA peut remplacer les métiers de technicien ou de journaliste?
Très bonne question. Très bonne question, mais je pense que c'est un petit peu tous les métiers aujourd'hui qui se posent finalement cette question. Il faut savoir que l'IA est partie prenante aujourd'hui aussi de ce que l'on peut faire en radio, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser pour regrouper de l'information, faire des résumés. On l'utilise aussi aujourd'hui dans la médecine, mais voilà, en radio, on peut aussi utiliser l'IA. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut remplacer des métiers ? Je pense que malheureusement, oui, elle en remplacera. Est-ce qu'elle en créera des nouveaux ? Je pense que oui, un petit peu comme l'arrivée d'Internet. Après, l'IA est incorporée de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les logiciels, on parlait de logiciels d'automation qui permettent de faire la programmation, elle va être un outil d'aide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle va pouvoir nous diriger vers telle ou telle chose. Après, attention, elle peut faire des bêtises. Donc, l'IA reste un outil qu'il faut savoir utiliser, mais savoir faire, moi, comme je dis aussi, les choses sans elle. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire les choses et ensuite on peut s'aider pour que ce soit complémentaire. Le problème, vous, par exemple, sur votre génération, c'est que vous avez l'IA dans les mains sans avoir toutes les connaissances au départ. Aujourd'hui, en adulte, nous, on a déjà été à l'école, etc. Donc, l'IA aujourd'hui est un support pour nous, mais n'est pas forcément quelque chose qui remplace ce que l'on fait. À terme, est-ce que ça le fera ? Pour l'instant, c'est un petit peu trop court pour le faire. Moi, je pense à un plafonnement au bout d'un moment sur le public, c'est-à-dire qu'on va avoir plus des développements dans le milieu professionnel, etc., de l'intelligence artificielle. Mais sur le domaine public du monsieur tout le monde, je pense qu'on est arrivé à une capacité aujourd'hui qui va peu évoluer en termes au niveau public. Après, est-ce qu'il y aura des métiers qui disparaîtront ? Techniciens, animateurs ? Oui, on voit que la voix, elle est clonée aujourd'hui. On voit notamment en termes animateurs qu'on peut cloner une voix. On s'en rapproche dangereusement, effectivement. Mais la vie d'une voix, par exemple, on va prendre une voix off, quand tu regardes la télévision, quand tu regardes une série, etc., une voix humaine, elle transmet une chaleur que ne transmettra jamais l'IA. L'IA, moi j'appelle ça, elle a des biais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle revient toujours de la même façon de s'exprimer, etc. Et on se rend compte au bout d'un moment, même sur la tournure des textes, peu importe que ce soit de la voix ou des textes, que l'IA, elle utilise toujours la même façon de faire. Alors que l'être humain, il va transmettre une émotion, une chaleur qui sera différente. Donc, une voix off, tu vois, une voix off IA n'arrivera pas à transmettre la même chose, ni ta voix, ni la mienne. On va se rapprocher sur certaines intonations, mais ce n'est pas la même façon de faire, pour l'instant, en tout cas. Merci Noé. Alors je crois que maintenant, Elijah a quelques questions.
Quelles sont les qualités requises d'un animateur radio ?
Curiosité. Première chose que je te donne, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser aux personnes que tu as. C'est-à-dire qu'animateur, moi je pars du principe qu'un animateur, parler tout seul, ça va 2 minutes. Ce qui est intéressant, c'est de poser des questions aux autres, c'est d'échanger, d'avoir un dialogue comme on est en train de le faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc la curiosité, c'est-à-dire s'intéresser à la personne, s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, s'intéresser à l'information de manière globale, ça c'est vraiment très important. Si tu n'es pas curieux, animateur, ça sera très compliqué. Ensuite, le contact. Aimer le contact. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le contact humain, ça sera aussi très compliqué de faire animateur. Après, on peut parler de l'improvisation. Comme je vous ai dit, en fait, il y a beaucoup d'écrits. Donc, l'improvisation est liée, oui et non. C'est-à-dire que là, par exemple, quand tu me poses des questions, je n'ai pas forcément préparé quelque chose. Donc, il y a un petit peu une part d'improvisation, mais c'est pas l'essentiel. Ensuite, une qualité. Alors, je vais répondre que ce n'est pas une qualité sur la voix. Parce que souvent, moi, c'est une question que les jeunes me posent. On me dit, est-ce que la voix, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important ? Moi, je n'ai pas une voix radiophonique, par exemple. Ça, je l'entends. Alors une voix, ça se travaille. C'est un outil, ça se travaille. La façon de s'exprimer, la façon de l'intonation. Retenez que la radio, c'est du théâtre. Donc c'est vraiment du théâtre. C'est-à-dire qu'on va surjouer quelque chose. Alors il y a une limite dans le surjouer. On ne va pas non plus exagérer. Je ne suis pas dans l'exagération. Mais on va surjouer. Je vais rajouter, par exemple, un petit peu plus de points sur quelque chose. C'est-à-dire que quand, sur une phrase, je ne vais pas juste terminer à un point « lalala ». Non, je vais surjouer peut-être sur un mot que je vais accentuer. Je vais accentuer sur quelque chose. Voilà, donc ça, c'est vraiment, en tout cas, un élément important sur tout ça, Elijah.
Si vous devez regarder votre parcours, y a-t-il un reportage ou plusieurs dont vous êtes fier ?
Alors, j'ai un parcours atypique, déjà, première chose. C'est vrai qu'effectivement, moi, je vais répondre à une question peut-être que vous aurez. Est-ce que j'ai fait une école de journalisme ou est-ce que j'étais dans une école de radio ? Non, aucun des deux. J'ai appris sur le tas. Alors, moi, je suis passionné depuis l'âge de 7 ans. De radio. Alors, je ne vais pas vous donner mon âge, mais vous avez bien compris que je suis beaucoup plus âgé aujourd'hui. Donc, je suis passionné de l'âge depuis 7 ans de radio. J'enregistrais déjà, à l'époque, vous n'avez pas connu, sur des cassettes. Donc, on pouvait appuyer sur le bouton REC en même temps. Et j'enregistrais déjà de la voix sur des cassettes avec un petit lecteur CD. Et donc, on enregistrait sur une cassette. Donc, j'ai commencé à enregistrer comme ça. Moi, je suis passionné de l'âge de 7 ans. Je fais de la radio depuis 2009. Donc, on est en 2026. Donc, moi, j'ai commencé à faire de la radio. Que des radios FM depuis 2009. J'ai été sur deux autres radios associatives en parallèle. Et après, j'ai fait des métiers qui n'ont rien à voir avec la radio. Donc, c'est resté ma passion pendant de très nombreuses années, en fait. Donc, moi, j'ai travaillé dans le domaine du froid commercial et industriel, pose de panneaux de chambre froide, chargé du matériel, livraison de matériel, etc. Je travaillais dans une entreprise de froid, donc de froid industriel. Hein. On entendait aussi, par exemple, le matériel que vous retrouvez dans les cuisines professionnelles, c'est-à-dire les sauteuses, les friteuses, etc. Donc, moi, j'étais dans un métier qui était très technique. J'ai été aussi en BTS, donc un BTS qui était fluide, énergie, environnement, option frigoriste. Donc, j'étais plus calé dans ce domaine-là. J'ai fait de la maintenance industrielle aussi, pour te dire que c'est resté une passion en dehors. C'est-à-dire que dans mon temps libre, je faisais déjà de la radio, puisque je vous ai dit que RTVFM existe depuis 2012. Donc, et moi, je fais de la radio associative depuis 2009. Et j'en fais mon métier depuis combien de temps, d'après vous? Est-ce que tu as une petite idée?
Je dirais à peu près 2 ans, voire 3.
Alors un petit peu plus, effectivement. Moi, j'ai commencé à faire ce métier-là depuis 2020. Donc, ça fait maintenant 6 ans que je fais ce métier au sein de la radio. Donc, officiellement, que c'est mon métier à 100%. Donc avant, j'ai fait aussi surveillant dans un campus agricole qui est juste à côté. Voilà, donc j'ai fait, on va dire pour l'instant, 3 métiers. C'est mon 3e, mais en tout cas, j'espère celui-là jusqu'au bout. Mais c'est une passion avant un métier aujourd'hui.
D'accord, merci.
Merci Elijah. On a maintenant des questions peut-être pour Renzo. J'espère que je ne vous ai pas répondu aussi à quelques questions déjà.
Bonjour, quel est votre budget?
Ah, le budget d'une radio associative, ça c'est intéressant. Alors, le budget d'une radio associative, il n'est pas le même budget qu'une radio commerciale. Le budget d'une radio associative, alors il n'y a rien de secret, une radio associative, elle peut monter jusqu'à 120 000 euros de budget annuel. RTBFM, c'est environ 80 000 euros annuels, donc deux chiffres d'affaires au niveau de notre budget. Le budget, ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, il y a des prestations de services, il y a, comme je vous ai cité tout à l'heure, des partenariats. Donc une grosse partie de partenariat avec, je vous ai dit, les offices de tourisme, les collectivités locales, les municipalités. Les prestations, quand j'entends prestations, ça peut être aussi sur le scolaire, hein, quand on intervient dans les établissements scolaires. Donc retiens que le budget moyen d'RTVFM, c'est à peu près 80 000 euros annuels.
Quelle stratégie nous conseillez-vous pour augmenter notre audience?
En tant que web radio, tu parles de vous quand vous faites quelque chose ou plutôt RTVFM?
Nous.
Vous, ok, quand vous faites web radio. Alors pour augmenter votre audience... Avant l'audience, c'est un travail, vous, qui est uniquement scolaire. Donc, première chose, effectivement, ça va rejoindre un petit peu l'audimat. Ce n'est pas la première chose pour vous. Première chose pour vous, c'est que votre travail, il apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'il est une utilité dans votre parcours scolaire. Déjà, ça, pour moi, c'est la première chose. Avant, vraiment, la course à l'audimat. Ensuite, effectivement, on peut être quand même fier de ce qu'on fait. C'est-à-dire de faire les interviews, d'avoir réussi l'interview, qu'il soit bien monté, qu'on soit finalement presque des fois au même niveau qu'une radio, peu importe commerciale ou associative. Ça, c'est aussi, ça peut être aussi une fierté. Ensuite, pour augmenter son audimat, tu peux le partager aussi sur des plateformes. Hein. Faut-il encore que ce soit autorisé, que vous ayez tous les droits, puisqu'il faut savoir que quand c'est que votre voix, il n'y a pas de souci, du moment que vous signez une décharge, etc. Le problème de droit ne se pose pas. Si vous utilisez de la musique, bah là, on rentre dans d'autres contraintes. On a une contrainte notamment SACEM, etc. Il faut que vous ayez les droits de pouvoir partager aussi ça sur Internet, puisqu'il faut savoir qu'il y a des droits quand vous partagez des podcasts. Donc, quand c'est des titres libres de droit, il y a peu de soucis. Mais quand ce sont des titres ou des musiques, des extraits, etc., qui sont sous couvert de la SACEM, bah là, il faut payer. En général, les établissements scolaires n'ont pas forcément les moyens, donc il vaut mieux utiliser des libres de droit. Donc, pour rejoindre ta question, comment augmenter l'audimat? Le partager sur les plateformes, après vous avez un avantage, c'est que vous pouvez partager aussi auprès des parents. En général, ce sont des projets qui restent essentiellement pour les parents et les jeunes. Donc là, vous pouvez le partager, l'utiliser notamment, je crois que vous avez des plateformes, alors je ne me rappelle plus la plateforme que vous utilisez, mais qui permet d'être en contact avec vos parents aussi et les enseignants, qui permet aussi de savoir si vous êtes présent ou pas physiquement en cours ou si vous avez des devoirs. Vous utilisez quelle plateforme notamment?
Pronote.
Pronote, voilà exactement, merci, c'était le terme que j'attendais, Pronote. Donc, sur Pronote, ça peut permettre aussi de partager. Après, vous avez peut-être un site aussi sur le collège qui permet aussi d'avoir tout simplement votre podcast mis en avant. Donc ça peut être intéressant aussi à mettre en avant sur le site internet. C'est une audience potentiellement en plus. Et après, le partage sur les réseaux sociaux si c'est autorisé aussi. On va continuer avec Leïla. Leïla, je t'écoute, Leïla.
Combien êtes-vous à être engagé dans l'aventure?
Alors j'aime bien ce terme aventure, t'as raison de l'utiliser parce qu'effectivement RTVFM il y a tellement eu de rebondissements et encore ces derniers temps que effectivement c'est le mot aventure, je pense qu'il est, il est vraiment bien choisi parce qu'on a commencé en 2012 et quand on voit tout le parcours qu'il y a eu pour obtenir des fréquences, pour avoir des salariés aussi qui sont passés chez nous, qui aujourd'hui travaillent dans d'autres secteurs d'activité mais qui se souviennent toujours d'RTVFM, des jeunes qu'on a eu aussi en stage, qui ont fait des écoles après d'ingé son, qu'on a eu par la suite, qui sont aussi partis dans des gros réseaux nationaux associatifs aussi. On a eu des personnes aussi comme ça au sein d'RTVFM. Donc pour nous, c'est une fierté, effectivement. Et aventure, effectivement, grâce aux bénévoles, grâce à l'activité, c'est une aventure. Puis la vie de tous les jours, les autorisations de fréquence, comment on les obtient, effectivement les sources de financement. C'est comme une entreprise aussi, c'est jamais écrit dans le marbre qu'on va avoir tant d'entrées d'argent chaque année, donc il faut se battre aussi. Et puis on se bat aussi aujourd'hui face à des très gros réseaux, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, RTVFM on existe depuis 2012, pour avoir sa petite place au milieu, avoir une fréquence, deux fréquences en l'occurrence, aujourd'hui c'est une fierté. Parce qu'effectivement, obtenir un bassin de couverture 850 000 habitants, c'est déjà un très beau bassin. C'est du travail tous les jours sans exception. C'est des fois des bâtons dans les roues, parce que malheureusement ça fait partie de la vie de tous les jours aussi. La radio, ce n'est pas un long fleuve tranquille, un peu comme la vie de tous les jours. Mais en tout cas, c'est une fierté aujourd'hui, de là où on en est arrivé, de faire de la radio. Et surtout, ce qui nous permet de continuer, c'est la passion. Avant l'aventure, c'est vraiment la passion. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les bénévoles que l'on a aujourd'hui, qui font des chroniques, hein, plus d'une vingtaine de chroniques et plus d'une vingtaine d'émissions, ces bénévoles-là, au départ, ils ne pensaient jamais des fois faire de la radio. On a peut-être deux personnes qui étaient issues de la radio, mais tous les autres bénévoles ne sont pas issus du secteur de la radio. Ce sont des personnes qui sont des fois qui ont des connaissances sur la santé, sur la littérature, etc. Et on le met en format radio. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a différents... j'ai envie de dire presque corps de métier, même si ce n'est pas des métiers, mais différents sujets qui sont traités dans la radio par rapport aux connaissances des bénévoles que l'on a. Et chacun trouve sa place. Ça peut être une émission sur de la musique, sur des groupes musicaux, parce qu'on aime les groupes musicaux. Ça peut être une émission sur, comme je disais, sur la santé, sur l'environnement, etc. Enfin, en tout cas, toutes les émissions, tous les sujets, il y en a tellement. Ça peut être sur de la sécurité routière ou autre. Tous les sujets, on peut les retrouver, nous, sur notre site internet, rtvfm.net. Voilà, donc c'est vraiment, ça donne une palette de ce que l'on fait.
Avez-vous fait des rencontres qui marquent?
Des rencontres qui marquent, ouais, ça va rejoindre un petit peu, mais c'est vrai que dans mon métier, je suis habitué à passer très vite de quelque chose à l'autre. Donc c'est malheureusement une problématique, mais des rencontres qui marquent, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je retiens plus finalement les élèves par les actions que je fais, parce qu'on corrige aussi vos fichiers derrière, on les monte, on les diffuse, donc il y a vraiment un travail à ce niveau-là, je rencontre aussi les jeunes. Puis aussi des fois, ce qui est toujours intéressant, c'est que prendre une petite anecdote, je suis allé, on fait aussi des fois des ateliers au sein de McDonald's qui est un de nos partenaires. J'avais fait des ateliers radio pour faire découvrir l'outil radio au sein de McDo. C'est pas courant quand même d'installer un plateau au sein de McDonald's et de faire découvrir à des jeunes l'outil radio. Et quelques temps après, je recroise des jeunes qui me disent « Ah mais vous, vous faisiez de la radio, on s'était vu à McDo, etc. » Ou même dans les écoles, moi, vu que vous avancez dans l'âge, hein, comme nous on avance dans l'âge, je recroise d'autres jeunes qui m'ont dit « Ah mais oui, il y a quelques années, on était à tel établissement, etc. » Donc c'est pas rare que je croise d'autres jeunes, effectivement, autour de ça. Après, le contact qui est intéressant, c'est le contact de terrain. Moi, ce que je retiens aussi, c'est vraiment le terrain, c'est-à-dire que de faire des interviews sur le territoire, d'être au milieu de toute la vie en fait, des collectivités, des municipalités, de faire des rencontres. En fait, de faire des rencontres, j'en fais tous les jours. Ça peut être les différents services, ça peut être les personnes dans lesquelles je fais des interviews. Voilà, c'est très varié. En associatif, il faut retenir que c'est tellement polyvalent qu'il n'y a pas une activité plus qu'une autre. Ça fait partie d'un ensemble. Moi, quand j'anime, par exemple, j'animais dernièrement aussi la foire aux chevaux de Bédaride. C'est des rencontres avec Déjà, on voit des choses que des fois, on n'irait pas forcément. On découvre des choses. Et puis, rencontrer du public, rencontrer aussi les personnes qui nous font intervenir sur l'événement, discuter avec eux, etc. Donc, c'est des rencontres humaines, surtout aussi ça. Le plus important, c'est les rencontres humaines. Merci, en tout cas, Leïla, Renzo, Elija et Noé. Et on va continuer avec un autre groupe. Merci. Et toujours avec les élèves du collège Valis Aeria de la web radio Les Petits Micros de Valis. Ils sont entre la 6e et la 3e et nous avons maintenant un nouveau groupe devant les micros. Nous avons le plaisir de recevoir Axel, Noé, Angélique et Charline. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors on va commencer avec Axel. Axel, je t'écoute du coup pour cette première question. Je crois que tu souhaites en savoir un petit peu plus toujours sur l'univers de la radio.
Comme question, j'avais « Peut-on vivre de son métier ?» Cela dépend de quel facteur ?
Alors, peut-on vivre de son métier ? J'en suis l'exemple. Mais il faut bosser. Sans travail, on n'a rien. Ça, c'est la première chose. Effectivement, on peut vivre de sa passion, vivre de son métier, mais je ne peux pas vivre sans tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que moi seul, en tant que salarié, ça ne suffirait pas au niveau d'RTVFM, en radio associative. Je vous ai dit qu'il y a un conseil d'administration, donc il y a des bénévoles aussi. C'est grâce à tout ça que l'on tourne et qui me permet d'avoir mon métier. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de bénévoles, s'il n'y a pas de conseil d'administration, je peux faire de la radio tout seul, ça ne servira strictement à rien. Donc c'est important, effectivement, qu'il y ait tout l'ensemble. Donc moi, je travaille pour l'ensemble, pour une cohésion d'ensemble, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que pour qu'on puisse diffuser tout ce que l'on produit, pour que les bénévoles puissent être contents aussi du travail fourni. Donc c'est vraiment une cohésion d'ensemble. Mais sans le conseil d'administration, sans les décisions qui sont prises, c'est eux en fait l'avenir en fait de la radio. Moi, je suis un salarié, c'est-à-dire qu'on peut me remplacer. Potentiellement, un salarié, on peut le remplacer. Donc oui, aujourd'hui, j'en fais mon métier, qui est une passion à la base. Mais sans le reste, sans tous les humains autour, ça ne servirait à rien.
Et pour continuer dans mes questions, connaissez-vous notre radio ?
Alors non, je la découvre aujourd'hui. Justement, tu vas m'en parler un petit peu plus. Tiens, je te pose une question. Alors parle-moi un petit peu de cette voix de radio. De quoi s'agit-il et puis de combien de temps ça existe ? Est-ce que tu sais un petit peu toutes ces réponses ?
Alors pour le temps qu'elle existe, je ne sais pas, mais la web radio se déroule donc à notre collège. Mmh. Donc Valisseria, on le fait dans le CDI.
D'accord.
Donc on rédige d'abord des textes et puis on s'enregistre pour faire ensuite un montage et essayer de le poster.
Ça a lieu tous les combien justement cet atelier ?
C'est de 13h à 14h les jeudis.
Les jeudis, ok. Quels sont vos enseignants qui vous accompagnent justement sur cet atelier ?
On a Madame Montaille et Monsieur Legrand.
Qui sont venus aujourd'hui vous accompagner aussi sur cet atelier web radio. Et alors, est-ce qu'on retrouve un petit peu vos podcasts justement sur le site du collège ?
Je n'en sais rien, désolé.
Tu ne sais pas pour l'instant, mais sûrement que oui, je suppose qu'effectivement le but c'est que ce soit écouté, que vos parents potentiellement puissent l'écouter, que vous aussi vous puissiez être contents, et qu'il y ait un projet derrière tout ça, parce qu'il y a une utilité, c'est-à-dire effectivement on dit sur la prise de parole, vous vous exprimez plus facilement, etc. Ou que c'est un but scolaire, qu'on suive peut-être les programmes aussi scolaires. Merci Axel. Noé, je t'écoute.
À l'heure où l'IA est en train de chambouler notre société, y voyez-vous un danger ou une opportunité ?
Alors ça va rejoindre un petit peu effectivement la précédente question qui a été posée, mais c'est pas grave, on peut être complémentaire. Je suis partagé, c'est-à-dire qu'effectivement on peut voir une opportunité. Pour une petite structure associative, l'avantage c'est que ça nous permet de faire des choses en plus qu'on n'aurait pas forcément le temps. Je m'entends par le fait de des fois faire des résumés. En fait, ça va nous faire gagner du temps. Mais alors c'est toujours à double tranchant. Gagner du temps pour faire plus de choses. Mais au bout d'un moment, plus de choses, ça veut dire atteindre les limites aussi. Donc effectivement, l'outil IA aujourd'hui peut être une opportunité. Un danger, ça peut l'être, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, potentiellement sur effectivement des métiers qui risquent de disparaître, effectivement, ou remplacer. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. On le voit quand même que, honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas les petites structures associatives, les petites structures qui ont potentiellement l'intérêt pour l'instant de supprimer des emplois parce qu'elles sont déjà au minimum. Il n'y a pas 36 salariés, etc. Par contre, les gros groupes, ça va les arranger parce que ça va leur permettre de dire ben, « on va virer tant de personnes ». C'est malheureusement comme ça que ça se passe et on va remplacer. Aujourd'hui, dans les petites structures comme les nôtres, on est déjà tellement dans de la polyvalence que l'IA, il va nous permettre de faire plus de choses, d'être effectivement d'avoir une opportunité sur des choses, mais de ne pas remplacer pour l'instant notre métier. On n'a pas déjà tous les corps de métier au sein d'RTVFM. Peut-être que ce sera un danger dans les très gros groupes, si l'on disait le réseau Radio France. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, on l'espère le plus longtemps possible. Merci Noé. On va continuer avec Angélique.
Traitez-vous l'actualité régionale, nationale ou internationale ?
Alors, effectivement, je l'avais précisé quand on a eu un petit échange tout à l'heure, hors antenne, on traite uniquement de l'actualité locale. Tout ce qui est national, international, alors je vais mettre entre parenthèses le régional qu'on peut des fois aborder, effectivement, la région, on va l'aborder. Le national, international, là, on le fait faire par un prestataire. On se contente, nous, d'être vraiment... On se concentre uniquement sur le local. Ça, c'est vraiment très important. Ça nous permet d'avoir plus de temps de traiter le local. Pour nous, une radio locale, c'est très important de faire du local. Sinon, aucune utilité d'existence. Donc, on fait du local. Le national, on le réserve à un prestataire. Le régional, bien sûr qu'on peut en parler. On est quand même dans la région sud. Donc, on va en parler, effectivement, dans l'actualité aussi.
Est-ce que vous envisagez de passer sur une radio nationale ?
Non, je vais être catégorique sur ça. Non, moi j'ai toujours été dans une radio associative. Si un jour on me propose de passer ailleurs, non. Mais même, de toute façon, ça ne sera pas le cas forcément. Mais j'aime trop le local et trop la liberté de ce que l'on a en associatif. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, on est dans de la polyvalence. J'ai toujours eu horreur de faire quelque chose qui est sur une seule chose. Par exemple, comme je m'explique, de faire uniquement journaliste, de faire uniquement animateur, de faire uniquement technicien. J'ai toujours eu dans les métiers, dans les deux autres métiers que j'ai eu en amont, toujours adoré faire de la polyvalence, faire plusieurs choses. Par exemple, je ne me verrais pas travailler en usine, faire toujours la même chose. Ce n'est pas possible en fait. Moi, dans la polyvalence, donc le secteur associatif, travailler dans une autre radio associative, un jour, pourquoi pas. En tout cas, étant dans le projet RTVFM, pour l'instant, j'en ai aucun intérêt de partir. Après, en national, non, c'est pas du tout. Ni régional, ça m'intéresse pas du tout. Parce qu'en fait, ce n'est pas assez polyvalent et on n'est pas assez au contact du local. C'est-à-dire, quand on est sur du national, on parle de national. Mais ça ne fait pas vivre le territoire, on ne parle pas du territoire. Et moi, je suis né à Carpentras, je suis trop ancré sur mon territoire pour avoir envie de partir sur du national. Voilà, donc national, sûrement pas. Régional, peut-être, mais en tout cas local à 100%, oui. Merci Charline, merci Angélique, merci Noé et merci Axel. Et nous recevons maintenant le dernier groupe du collège Valis Aeria pour cette matinée où ils sont venus à nos rencontres dans les studios. Nous avons devant les micros, ils portent le même prénom que moi, c'est Florian, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi Alban, bonjour.
Bonjour.
Alors on va donc parler avec vous deux maintenant de un petit peu de vos questions et je vais écouter tout d'abord Florian.
Est-ce que vous avez appris à travailler votre voix?
Ah, très bonne question. D'après toi, est-ce que oui ou non?
Oui.
Alors j'ai dit tout à l'heure effectivement qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise voix et que ça se travaillait. C'était un outil effectivement. La voix se travaille, oui. C'est-à-dire qu'au départ, pour rien te cacher, moi j'ai commencé à faire de la radio à 14 ans. Vraiment radio. Je parle dans une vraie radio, 14 ans. Je suis passionné depuis l'âge de 7 ans, mais vraiment 14 ans. Quand j'ai commencé à faire de la radio à 14 ans, je prenais le train. Tu sais ce que ça veut dire?
Oui.
Ça veut dire quoi? Je parlais très vite. Je ne fais pas la ponctuation. Voilà, le défaut que vous avez aussi beaucoup. En général, quand vous disiez quelque chose, on vous dit suivez la ponctuation, etc. Donc ça, c'est le premier défaut que j'avais quand j'ai commencé à faire de la radio. Après, on apprend à moduler sa voix, c'est-à-dire à ce qu'elle fasse des vagues un petit peu, c'est-à-dire suivre la ponctuation, etc. Mais ça se travaille sur plusieurs années, et c'est au bout d'un moment, après, de ça qu'on a une voix plus style radiophonique. Mais dans l'idée, il n'y a pas de bonne ou mauvaise voix. On me dit souvent « Ah, mais j'ai un accent, la voix, ça ne va pas aller ». Ça fait partie du territoire, ça fait partie de là où on est. On est une radio associative. Alors, je rigole parce que Sacha, qui est en face de moi, qui fait la partie technique, effectivement, a un accent plus prononcé. Et donc, des fois, effectivement, on peut avoir des, entre guillemets, des petits défauts de langage qu'on peut gommer pour être un petit peu plus lisse, mais ça fait quand même partie de la voix. Donc, ça fait quand même partie de la radio associative. On a eu, je pense à Stéphanie, qu'on a eu en tant que salarié chez RTVFM, qui avait l'accent du territoire. Donc ça n'a pas posé de questions, de problème. Du moment qu'on sait bien lire, qu'on a la bonne intonation, le bon volume sonore, effectivement, déjà, ça fait déjà une grosse partie. Et après, l'intonation, ça, c'est aussi très important. Mais retiens qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise voix, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Et au bout d'un moment, effectivement, tu as une voix plus radiophonique. Merci Florian. Et nous avons donc Alban, je t'écoute pour ta question.
Est-ce que vous obtenez facilement des interviews?
Alors, les interviews, oui. C'est-à-dire qu'en général, les gens ne refusent pas. C'est même eux qui nous contactent très régulièrement pour faire des interviews. On en reçoit beaucoup de messages. Donc, ce qui peut mettre aussi du temps à ce qu'on réponde à tout le monde parce qu'on a de l'activité tous les jours, sur le terrain, en administratif, etc. Donc, des fois, on peut avoir une certaine latence aussi de réponse. Mais en général, on essaye de répondre le plus possible aux demandes d'interviews. Et effectivement, nous aussi, on peut avoir des sujets qu'on souhaite traiter. Et dans ce cas-là, on va contacter. Je te dirais qu'aujourd'hui, en 2026, c'est plutôt l'inverse. On nous contacte beaucoup plus que ce que nous, on contacte. Je dirais qu'on est déjà à fond en termes d'activité de ce que l'on fait. On ne peut pas aller au-delà, plus haut aujourd'hui, avec un salarié et une vingtaine de bénévoles. Oui, on a des interviews qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. En général, aujourd'hui, les interviews que l'on va faire de notre propre initiative, c'est ciblé dans le cadre de contrats ou de prestations que l'on a financières pour arriver à justifier de l'activité que l'on fait. Mais après, c'est les personnes qui vont nous contacter pour des événements, etc. Ça peut être les municipalités, comme on le disait. Il faut retenir qu'une radio associative, elle vit avec son territoire. Sans l'activité, sans l'attractivité de son territoire, elle n'aura pas d'utilité. Nous, on est dans un territoire qui est très attractif, le Vaucluse, le Nord-Vaucluse, etc., même jusqu'à Valréas ou autre. Il y a beaucoup d'événements, dans un territoire qui est aussi très touristique. Donc, on ne manque pas d'activité, c'est toute l'année. Le mois le plus calme en radio, c'est le mois d'août. Parce qu'en mois d'août, comme bon, beaucoup de métiers aussi, on prend un petit peu des congés, mais ça tourne sinon tout le reste de l'année. Après au mois d'août, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on fait au mois d'août? Est-ce qu'on met que de la musique, etc. On va mettre des fois des rediffusions de nos chroniques, de nos émissions. Voilà, le mois d'août, c'est un mois un petit peu plus léger, où moi aussi je prends du repos, et les bénévoles aussi. Et après, on redémarre en septembre sur les chapeaux de roue. Donc là, il nous reste à tirer jusqu'à fin juillet. Vous avez presque fini l'année scolaire aussi, il vous reste un petit peu de temps encore. Mais en gros, on finit presque tous en même temps. Et après, on a 3 semaines de vacances et on reprend.
Comment mettez-vous un invité à l'aise?
Comment je mets un invité à l'aise? Je ne lui parle pas, non, je plaisante. En général, effectivement, ça peut être un peu sur le côté humoristique. Ça peut être aussi sur le rassurer, vous rassurer sur comment on peut se positionner, comment on peut s'exprimer. Vous dire, par exemple, c'est de l'enregistrer. Aujourd'hui, là, c'est de l'enregistrer. Donc, je vous ai dit, il faut se mettre à l'aise, on peut parler tranquillement. C'est la façon dont on va s'exprimer. La politesse en fait partie aussi, hein. Je ne vais pas être brut de décoffrage. Tu comprends le terme?
Oui.
Voilà, je ne vais pas te dire assis-toi. Voilà. Voilà, il a une façon de s'exprimer. Donc, il y a un rythme. C'est un petit peu comme quand je parle, quand je vous parle actuellement. C'est, il y a un rythme à avoir, un échange à avoir. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'est de la communication au sens large. Mais tu en fais tous les jours aussi de la communication. Tout le monde en fait tous les jours. Donc, comment tu te comportes? En général, les gens se comportent de la même façon aussi. En tout cas, ils essayent. Après, la timidité, c'est pas la même chose. Par exemple, aujourd'hui, votre cas, c'est de la timidité. C'est pas autre chose. C'est pas que vous intéressez pas au sujet, c'est que vous êtes timide. Des fois, peut-être impressionné. Voilà. C'est pas forcément, je m'en fous complètement du sujet. Merci Alban, merci Florian.
Merci à vous aussi.
Merci Charline, Angélique, Noé, Axel, Leïla, Renzo, Elijah, Noé, Nina, Marie-Lou, Nathanaël, Camille. En tout cas, d'avoir été présent du collège Valis Aeria, donc les petits micros de Valis. Et je rappelle donc que vous faites de la web radio au sein de ce collège. Merci d'être venu dans nos studios. Au revoir.
Au revoir.